lecteur, c'est un métier. Mais bien sûr, c'est un métier. Ça, c'est une chose que Borges m'a appris. Il m'a fait comprendre que lire est une façon de vivre, peut-être la meilleure façon de vivre. Et que dans les histoires des autres, on retrouve les siennes propres, on retrouve une vision du monde qui peut être unique, nôtre, mais qu'en même temps est mise en mots par ces grands maîtres de la littérature de tous les temps. Moi, j'entends par métier le travail qui nous est essentiel dans la vie. Ce que nous voulons faire, parce que si nous ne le faisons pas, nous mourrons.
La lecture comme acte indispensable à la vie, dit Alberto Manguel, c'est une phrase qui prend un sens tout particulier lorsque les bombes tombent à quelques mètres dans la ville de Daraya, non loin de Damas en Syrie. Une phrase qu'une bande de jeunes hommes de 20 ans prennent au pied de la lettre lorsqu'ils décident non seulement de fonder une bibliothèque sous les bombes, mais aussi de documenter cette aventure. C'est depuis leur exil à Istanbul qu'ils vous racontent, Delphine Minoui, les soirées d'échanges littéraires dans la cave, les corps morts entre posés au milieu des rayonnages et les ouvrages dépliés au front près des armes et des talkie-walkies. Votre film les montre aussi loin de chez eux, rivés aux écrans d'ordinateurs et de téléphones, dans l'exil et forcés de réinventer leur vie. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci.
Vous co-réalisez ce film Daraya avec Bruno Joukla et la collaboration de Shadi Matar, qui est l'un des jeunes hommes de cette bande. Il sera diffusé sur France 5 ce dimanche 10 mars à 22h30. Et puis il a été aussi d'ores et déjà sélectionné dans plusieurs festivals, dont le FIGRA. Vous aviez déjà consacré un livre à cette histoire d'Elphine Minoui, cette histoire de bibliothèque sous les bombes qui s'appelait Les passeurs de livres de Daraya. C'était publié en 2017. C'est une histoire qui commence par une rencontre, par plusieurs rencontres. Est-ce que c'est lié à votre poste de correspondante pour le Figaro et qui vous permet de traiter l'actualité du Moyen-Orient ?
Oui, c'est parti d'une volonté de continuer à raconter la Syrie que j'ai suivie depuis des années, bien avant le début du printemps arabe en 2011. Et à la fin de l'été 2015, je suis à ce moment-là en poste, je viens de déménager à Istanbul, j'arrive du Caire, et je veux continuer à documenter ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie, et je me trouve face à un dilemme comme mes confrères, c'est comment pouvoir rendre visible l'invisible, puisque il était de plus en plus impossible, de plus en plus difficile d'obtenir des visas pour aller à Damas, côté régime, mais également pour entrer en zone rebelle, puisque c'était dangereux, il y avait pas mal de confrères qui avaient été kidnappés. Et à ce moment-là, j'ai commencé à surfer sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça que cette aventure a commencé. C'est d'abord un lien virtuel qui a commencé à se tisser avec ces jeunes de Daraya, puisque je suis tombée sur une photo qui les montrait sur Facebook, ces jeunes, entourés de murs de livres, dans une petite pièce très sombre, pas d'ouverture, pas de fenêtre, pas de porte. Il y avait juste une légende intrigante qui disait qu'il s'agissait d'une bibliothèque secrète, clandestine, dans la banlieue rebelle de Daraya. Et j'ai pris un premier contact avec eux. Je suis tombée sur WhatsApp sur Ahmad, qui était l'auteur de cette photo, mais également le cofondateur de cette bibliothèque. Et pendant des semaines, des mois, des années, ces jeunes, ils ont défilé derrière la lucarne de l'Internet et ils m'ont raconté leur histoire exceptionnelle à laquelle j'ai voulu consacrer un livre. Pour moi, ce livre, c'était une façon d'immortaliser leur aventure, leur résistance culturelle sous les bombes, à travers les mots. Et ce récit qui est aussi la volonté de raconter donner une autre version que le discours de Bachar al-Assad, qui voulait nous les présenter comme des terroristes à éradiquer à tout prix. Et ces jeunes incarnent pour moi cette résistance qui a malheureusement été étouffée, mais qui est la résistance du début, quand ces jeunes sortaient dans la rue en 2011, avec cette volonté tout simplement de réclamer la liberté et de réclamer un pays avec un débat d'idées polyphonique en opposition à la pensée unique imposée par le régime de Bachar al-Assad.
Alors comment on les trouve autrement que par hasard, Delphine Minoui ? C'est-à-dire qu'une partie de votre travail de journaliste, à un moment donné où il n'est plus possible d'aller en Syrie, c'est de dégoter des pages Facebook, c'est d'aller de site en site et de trouver ces jeunes gens qui sont des jeunes gens complètement anonymes et qui n'ont pas de lien spécifique ni avec la presse, ni avec des médias de leur pays ou des médias internationaux. Comment vous arrivez jusqu'à eux ?
L'idée, c'est vraiment d'avancer à tâtons, petit à petit, c'est parfois notre métier de journaliste dans des zones compliquées. C'est vrai que ça fait 20 ans que je couvre le Moyen-Orient. On est comme un petit poussé, on sème des petits cailloux. Parfois, on se heurte à des murs. Parfois, on arrive, si les portes se ferment, à ouvrir une petite fenêtre, une petite lucarne. Et on se transforme nous-mêmes en passeurs, en colporteurs d'histoire. On va tendre la main à ces gens-là qui sont dans les marges, qui sont dans des zones d'ombre. Et donc, mon rôle aussi en tant que journaliste, reporter, c'est de me glisser à travers les interstices pour écouter, tout simplement. Écouter, interroger, douter parfois. Comme je n'avais pas accès à eux, j'étais en pleine interrogation. Qui sont vraiment ces jeunes? Est-ce qu'ils me cassent quelque chose? Est-ce que ce sont vraiment des résistants pacifiques? Ou est-ce qu'à un moment donné, eux aussi, ils ont pris les armes, ils ont basculé dans la violence? Donc douter, questionner,
d'ailleurs,
supposer.
D'ailleurs, la limite n'est pas si claire que ça. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, les personnes qui peuvent monter cette bibliothèque et ou la fréquenter, pouvaient très bien montrer leur proximité avec le front. On se rend bien compte qu'il peut y avoir des personnes qui prennent les armes et qui, par ailleurs, vont dans ces endroits-là récupérer des livres. C'est beaucoup plus flou que ce que vous décrivez comme limite très précise.
Exactement, et ça a été le cas. C'est-à-dire que pendant tous ces mois où je me suis retrouvée dans cette configuration à tenter finalement de recomposer le puzzle de l'histoire de Daraya, recomposer ce puzzle à travers des fragments de témoignages entrecoupés par les bombardements, par les coupures d'électricité, c'était un lien très fragile, par l'internet, recomposer ce puzzle en images aussi, parce que parfois ils m'envoyaient des photos, des vidéos, tout est parti de cette image, comme on le disait tout à l'heure, et c'est comme ça qu'au fil des conversations avec eux, je me suis aussi rendu compte que parmi les lecteurs assidus de cette bibliothèque, ce refuge de papier, eh bien il y avait également des combattants anti-Assad, et qui me disent à ce moment-là, cette phrase magnifique, qui me disent que ces livres, c'est une forme de refuge, c'est une forme d'évasion, c'est un moyen de rester debout, mais c'est un moyen aussi de rester humain et de ne pas basculer dans la radicalisation et l'extrémisme, d'essayer de tenter en permanence de porter cette troisième voie, prise en étau entre d'un côté le régime de Bachar al-Assad, le régime de Damas, mais également la tentation de l'extrémisme avec Daesh et les djihadistes.
Il y a plusieurs moments dans votre documentaire, Delphine Minoui, et il y a des moments où on est au plus près, je le disais tout à l'heure, des bombardements, où on est très directement dans la cave, au moment où se montent les bibliothèques, on y reviendra. Mais ça pose la question de la pluralité des images avec lesquelles vous avez dû travailler. Ça signifie que ces jeunes-là, dès le départ, ils avaient à cœur de documenter leur démarche, bien avant de savoir que ça deviendrait un film?
Dès le départ, et ça c'est, je pense que c'est important de le rappeler, c'est pas seulement le cas de Daraya, mais ça a été le cas de plein d'autres villes assiégées par le régime, je pense à Alep, Homs, la région de la Ghouta orientale. Il y a eu toute une nouvelle communauté d'insoumis qui s'est transformée en citoyens journalistes, dans la mesure où il n'y avait plus aucun reporter étranger sur place pour raconter leur histoire, ils ont pris en main leur destin. Ils sont devenus à la fois acteurs et témoins de leur propre récit, de leur propre expérience. Donc ces jeunes, pour eux, ça leur tenait à cœur de raconter leur ville d'Araya et de se raconter. Donc ils ont utilisé tous les moyens à portée de main, c'est-à-dire des petites caméras Sony, un objectif professionnel aussi qui leur a été acheminé par une femme. Il faut savoir que les femmes, elles sont assez invisibles dans ce documentaire, mais elles existent dans les marges et en parallèle, puisque cet appareil photo, vidéo qu'utilise très souvent Shadi, qui est notre personnage principal, protagoniste principal dans le film, cette caméra qu'il a entre les mains, elle a été apportée par une jeune femme qui est venue de Damas, qui s'est faufilée à travers les champs d'oliviers, sous son voile, à travers les checkpoints, et qui a apporté ce sésame qui les a aidés à se documenter et à se raconter. Donc en effet, dès le début, ça leur tenait à cœur de documenter leur histoire, ce récit, pour offrir un contre-champ au film de propagande, entre guillemets, que voulait imposer le régime de Damas. Et c'est à partir de toutes ces images qu'ils ont réussi à sauver, quand j'ai pu les retrouver pour la première fois, en l'occurrence Shadi, à la fin de l'été 2016, quand ils ont été forcés de quitter leur ville en 24 heures. Donc quand j'ai retrouvé Shadi en Turquie, de l'autre côté de la frontière, c'est là que j'ai réalisé l'évidence de ce film, dans la mesure où il avait sauvé toutes ces images, par bribes éparses, complètement désorganisées, complètement chaotiques, à l'image de ce chaos qu'ils ont vécu eux-mêmes et qu'ils ont parfois passé en autodérision aussi. Et, Et c'est comme ça qu'on est parti dans un long travail d'abord préalable de déchiffrage, de réorganisation de ce chaos par les images pour essayer de tenter d'en extraire le meilleur pour pouvoir rendre hommage à leur aventure exceptionnelle de résistance culturelle et d'en faire un film.
Et pas uniquement de cela, je pense que c'est important de dire que ce film-là, ce documentaire que les gens vont pouvoir voir sur France 5, Delphine Minoui, il documente autre chose que la création de cette bibliothèque sous les bombes, parce que, vous le dites, ils ont à cœur, comme d'autres citoyennes et citoyens des villes de Syrie assiégées, de documenter ce qu'ils vivent. C'est-à-dire, pour être très précise, ils vont à chaque fois, il y a plein de plan qui commence par le nom de la ville, l'heure, la date, juste avant ou juste après des bombardements, comme si ils avaient une conscience extrême que l'absence de la presse, que l'absence d'observateurs internationaux pouvait rendre l'idée qu'il n'y aurait pas de traces de cette horreur. Est-ce que ce film-là, c'est aussi une trace possible en dehors de l'aventure humaine de cette bibliothèque ?
Évidemment, c'est la volonté d'immortaliser une expérience exceptionnelle qui incarne quelque part, qui est une sorte de métaphore de la révolution pacifique de 2011. Immortaliser un instant, 4 années, c'est plus qu'un instant évidemment, raconter à travers ces images, au nom de la mémoire contre l'oubli, dire on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Ces jeunes, ils ont eu la chance d'avoir ces caméras, mais aussi ces livres, comme des armes. C'était leurs armes à eux, leurs armes pacifiques. À l'inverse de la génération précédente, la génération du père de Bachar al-Assad, de Hafez al-Assad, qui, on s'en souvient, avait commis un massacre terrifiant dans les années 90 dans la ville de Hama. À l'époque, il n'y avait pas d'image. Et à ce jour, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On ne sait pas combien il y a eu de morts. Les gens ont encore peur d'en parler. Ces jeunes, ils ont eu la chance de pouvoir se documenter à grand risque, il faut le rappeler, puisqu'ils ont perdu des compagnons qui filmaient aussi dans les rues. Shadi a également été blessé quand il voulait raconter son histoire de Daraya. Ils ont pris des risques, mais ils partaient du principe que ça en voulait la peine, au nom de l'histoire, tout simplement, au nom de la mémoire.
Un des jeunes de Daraya a eu une idée folle qui allait transformer notre quotidien et nous rendre inséparables à jamais. C'était 1 an et demi après le début du blocus. Les copains sont entrés dans les maisons bombardées pour récupérer les livres, avec le projet de créer une bibliothèque pour les habitants de notre ville assiégée. Au début, je n'y croyais pas. Pourquoi sauver des livres quand on ne peut même pas sauver des vies ? Pourtant, l'idée a pris. Avec évidemment, parmi les plus enthousiastes, l'intello de la bande, mon ami Ahmad. Des livres, il y en avait partout. Dans les écoles, dans les maisons, dans les mosquées. Certains disaient, on a fait cette révolution pour construire quelque chose, pas pour détruire. Les copains ont déniché une cave, un endroit sûr pour protéger les livres. Ils en avaient récolté 15 000 en un mois. C'est incroyable tout ce qu'ils ont pu récupérer. Des livres religieux, des livres d'histoire, des romans censurés par le régime. Chaque ouvrage était comme un trésor. Sur la première page, on a écrit le nom du propriétaire pour lui rendre quand la guerre serait finie. On a tout classé, tout numéroté. C'était comme remettre de l'ordre au milieu du chaos.
Un extrait de votre film Delphine Minoui, et on entend cette voix qui va nous guider tout au long du film de Shadi Mahatal, qui raconte l'histoire de cette bande d'amis à Daraya qui ont cette idée folle de créer une bibliothèque sous les bombes. Alors concrètement, vous rencontrez ce jeune homme à Istanbul, vous rassemblez, vous le disiez tout à l'heure, ces bouts éparses de documentation visuelle, et puis ensuite il vous raconte l'histoire. Ça se passe comment ? Tout est très clair dans sa tête, les souvenirs sont très précis, parce que là, à l'entendre raconter, on a l'impression qu'il y a une correspondance folle entre ce qu'il a documenté avec sa caméra, ce qu'il vous raconte, comme si presque il y avait lui-même un projet d'en faire un film.
En fait, ce film, c'est le résultat d'un très très long processus, presque une thérapie pour Shadi. Ce qui était important pour moi, c'est que ces jeunes, et en l'occurrence Shadi principalement, se réapproprient leur histoire. Et moi, j'étais là pour les aider tout simplement aussi à retrouver la parole, une parole étouffée. Shadi, quand je l'ai vu pour la première fois à la frontière turco-syrienne et qu'il est arrivé dans ce café, après avoir échangé pendant des années, déjà, ce qui était bouleversant, c'est qu'on s'est pris dans les bras et c'est comme si on s'était quitté la veille, alors qu'on ne se connaissait pas, mais on avait déjà donc tissé ce lien virtuel à travers l'Internet. Et ce qui m'a marqué, dans un second temps, c'est cette timidité, cette grande réserve de la part de Shadi, qui exprimait également un grand traumatisme. Shadi a été blessé à la main, alors qu'il filmait un jour dans les rues bombardées de Daraya. Shadi a perdu la vision d'un œil également. Il était très affecté physiquement, très affecté moralement aussi, parce que c'était 4 années de rêves incroyables, de beauté à travers cette résistance, mais d'horreur aussi, où il a flirté avec la mort au quotidien.
Il faut quand même s'imaginer les décors qu'on voit à l'écran. Hein. On est très loin du rêve incroyable. La totalité des immeubles sont en ruine. Les rues, alors bien sûr, ils se filment. Comme j'ai envie de dire, des gamins innocents qui roulent trop vite à la campagne, mais en même temps, ils sont au milieu d'un décor de guerre absolument terrifiant. Donc ça donne presque quelque chose qui est très étrange, en fait. Oui. Une sorte de jeunesse qui tient à vivre sa jeunesse au milieu des bombes.
C'est presque bouleversant. Je pense que c'est la jeunesse aussi qui les fait tenir, qui les fait vivre, qui les fait vibrer à travers cette utopie collective qu'ils ont créée, à travers ce groupe d'amis. C'est l'amitié qui les fait tenir également. Et donc, tout ça, c'est ce que je découvre dans ces images de Shadi quand il les apporte sur ces disquettes bourrées à craquer, ces disques durs qui contiennent la mémoire visuelle de Daraya. Mais Shadi, à ce moment-là, il est très timide, il est très bouleversé. Il a du mal à se détacher de ces images et il a du mal aussi à les revisionner. Parce que c'est repassé en boucle tout ce rêve inachevé qui a été brisé, et toute cette horreur aussi. L'horreur des bombardements, l'horreur de la violence des tirs de mortier, des barils d'explosifs. Et là, avec Shadi, on se lance dans un processus qui va durer presque 9 mois. Et ça a été un véritable accouchement, parce que pour lui, ça a été très douloureux de revisualiser tous ces moments fragmentés. Et on s'est donné rendez-vous régulièrement dans des cafés. Parfois, c'était toutes les semaines. Parfois, en plein visionnage, Shadi craquait. Il s'octroyait enfin le droit de pleurer et de dire que ça allait pas. Et Shadi redevenait silencieux. Il se taisait. Sa bouche était cousue et il disparaissait. Et tout d'un coup, par le biais de WhatsApp, parce que ces jeunes, c'est vraiment la culture du WhatsApp, des petits smileys qu'on s'envoie comme ça, même au creux de la nuit. Il réapparaissait tout d'un coup, il me disait « ça y est, je suis prêt à nouveau à rediscuter, à te raconter mon histoire et à revisualiser ces images ». Et donc voilà, ce film, c'est aussi l'aboutissement de ce long processus. Tout comme ces jeunes, à l'époque, avaient exhumé des livres dans les décombres de la ville, ensemble, avec Shadi, on a exhumé ces images, cette mémoire de Daraya. Et au fil du temps, Shadi a retrouvé la parole. Et c'est pour ça que c'était important de le laisser être lui-même le fil conducteur de cette histoire, de se raconter, de raconter ce siège, de raconter cette révolution, et de raconter aussi ce groupe d'amis incroyables, cette amitié indéfectible qui s'est tissée sous les bombes, mais également à travers la lecture, à travers les livres, et qui essaye encore aujourd'hui, dans cet exil, en Turquie, dans ce déchirement, loin de leur ville qu'ils ont perdue, loin de leurs amis qui sont morts sous les bombes, qui essaye de revivre et qui essaye de faire renaître ce rêve de Daraya, ce rêve inachevé.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Delphine Minoui, les femmes sont absolument absentes de ce film-là. Quand il y a des images, des réunions littéraires qui sont... voilà, on est incrédule, hein, franchement, je vous l'avoue. On regarde ces images de guerre et puis il y a des jeunes hommes qui se réunissent dans des caves pour parler de littérature.
Bon, et pour parler aussi d'ouvrages complètement incongrus comme des manuels de développement personnel à l'américaine, je pense aux 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, qui devient leur ouvrage de référence.
Mais sur comment devenir un super entrepreneur et comment être un homme efficace dans le 21e siècle, alors que bon, on les voit dans un sous-sol, certes rempli d'olives mais lugubres, et puis et risquant leur vie en permanence. Donc ce sont des scènes étranges et on se demande toujours... Est-ce qu'il n'y a plus que des jeunes hommes dans Daraya assiégés? Où sont les femmes? On voit apparaître quelques enfants, mais où sont les femmes d'Elfim Inouï?
C'est une bonne question. C'est-à-dire que si on se replace les choses dans leur contexte, donc la révolution se produit en 2011. Les jeunes manifestants qui, à l'époque, à Daraya, brandissaient des roses et des bouteilles d'eau aux forces de répression pour les appeler... à leur tendre la main, à se dire nous sommes tous des frères avant tout. Ces jeunes-là, ils ont été reçus par des balles. Et après ça, il y a eu un massacre en 2012. Ensuite, il y a eu le début du siège. La ville a été complètement verrouillée, bloquée. Ces gens-là se sont retrouvés bombardés, mais également affamés. Il n'y avait plus rien à manger. Et à ce moment-là, ils sont partis du principe qu'ils devaient... qu'ils devaient tenir d'une façon ou d'une autre, ces jeunes, ces activistes de la première heure. Mais il faut dire qu'il y a un grand nombre, un grand pan de la population qui n'a pas eu leur courage et qui est parti dans d'autres villes, qui est parti en exil. Et donc cette ville de Daraya, qui se trouve à 7 km de Damas, cette banlieue, qui faisait à peu près, qui contenait à peu près 250 000 habitants à l'époque, s'est retrouvée avec à peu près seulement 10 000 âmes. C'était essentiellement des hommes qui sont restés, de jeunes hommes. Les femmes, les enfants sont partis. Malgré tout, il en restait. Mais étant donné les risques encourus, c'est vrai qu'il y a toute une vie parallèle, souterraine, qui s'est organisée dans la ville de Daraya. Il y avait la ville hors, la ville sur terre et la ville sous terre. Sous terre, il y avait la bibliothèque, mais il y avait également un hôpital de campagne, il y avait des écoles tenues par des femmes, et il y avait les logis. Improvisées dans des caves. Et donc ces femmes, c'est en effet les grandes invisibles dans ce documentaire, parce que les jeunes se sont surtout filmés entre eux, mais elles existaient. Elles existaient en sous-sol, elles enseignaient aux enfants.
Est-ce qu'elles avaient autant accès aux livres et à la bibliothèque qui étaient rassemblés dans cette cave-là? Parce que quand on voit ces réunions littéraires, il n'y a que des jeunes hommes.
Alors c'était dangereux pour elles. Elles avaient du mal à prendre le risque, compris certains jeunes.
Mais plus que ces jeunes hommes.
À sortir leur tête des trous, entre guillemets. Tout simplement parce qu'elles étaient confinées dans les caves avec leurs enfants. Il faut savoir que pendant 4 ans de siège, il y a à peu près 400 bébés qui sont nés sous les bombes. Donc, il fallait aussi s'occuper des nourrissons. Et ce qui est très beau, alors, ils ne l'ont pas documenté parce qu'ils se sont filmés dans l'urgence. Et ce documentaire, il est aussi très fragile parce qu'il se base sur les images qu'ils ont filmées eux-mêmes. Et donc, il y avait pas mal d'images manquantes, je dirais, dans ce film. Ces femmes, en revanche, elles lisaient dans les caves et les hommes leur apportaient des livres. Leur apportait des livres, apportait des ouvrages de littérature enfantine pour les bambins qui pleuraient sur les bombes. Et donc ces livres, comme on le voit dans la bibliothèque, dans les images de la bibliothèque, ces livres c'était des échappatoires, c'était une forme de refuge, mais c'était aussi des pansements de l'âme pour aider chacun à tenir face au bombardement. Ces livres sont devenus aussi des armes d'instruction massive face à la tyrannie du régime, face à la tyrannie des bombardements. Et ces livres ont aidé aussi les enfants dans les interstices de la ville à tenir et à contenir parfois certaines larmes et certains sanglots sous les bombes.
Mais ma poésie tend vers la danse, le chant. Et j'ai beaucoup plus une inclination à écrire l'amour et l'amour charnel et la femme et la nature.
Ces
Ces éléments sont tout le temps présents dans toute ma poésie et bousculent un peu le vers pour passer un peu au premier plan, en permanence. Et à mon avis, c'est cela qui exprime la résistance dans ma poésie, pas ce que l'on pense d'habitude.
Car moi,
j'affronte la réalité brutale en insistant sur son contraire.
Et
mon poème ne demande et n'exige que des choses très simples. Qu'il me soit, par exemple, donné la liberté de commettre des bêtises, des étourderies.
Et
que j'ai le droit un peu de casser le prototype de ce personnage emblématique de notre situation de Palestinien qui aujourd'hui semble tout à fait s'imposer sur la scène.
Casser l'image de ce qu'on attendrait d'un Palestinien en lutte et en résistance, c'est la voix de Mahmoud Darwish dans une archive de 2003 au micro de Kathleen Evin dans l'émission L'Humeur Vagabonde. Delphine Minoui, Mahmoud Darwish a une place importante dans ce documentaire d'Araya. Il a peut-être une place aussi importante dans les rayonnages de cette bibliothèque de sous-sol. Pourquoi c'est un auteur qui apparaît dans la voix de Shadi Matar?
Parce que Mahmoud Darwish, c'est un poète qui a été à distance et à titre posthume leur compagnon de résistance à travers ses mots, à travers la beauté de sa poésie, parce que à sa façon Mahmoud Darwish, il a vécu une forme de siège. Et d'ailleurs, il a écrit un poème fleuve magnifique qui s'appelle L'état de siège, où il raconte tout ce qu'il a pu vivre en Palestine. Et ces jeunes, à un moment donné, parmi tous les ouvrages qu'ils découvrent dans les ruines de leur ville, il y a de tout, il faut le rappeler, des ouvrages, des pavés de sciences politiques, des ouvrages de sociologie, un Guinness des records, il y a L'alchimiste de Paolo Coelho. Et parmi tous ces livres, ils tombent sur les poèmes de Mahmoud Darwish. Et là, tout d'un coup, Mahmoud Darwish exprime à sa façon, dans ce qu'il écrit, ce que eux n'arrivent pas à exprimer. Et il y a un effet de miroir. Ils se retrouvent dans ces mots. Et ces mots les aident à tenir. Et à un moment donné, donc ils se mettent à lire du Mahmoud Darwish, mais ils se mettent également à écouter du Mahmoud Darwish, parce que, en fonction des aléas de l'Internet, ils arrivent de temps en temps à télécharger des vidéos, des extraits sonores. Et quand ça va pas, au fond des caves, ils écoutent la voix apaisante de Mahmoud Darwish, comme un baume de réconfort qui les aide à tenir. Et je trouve ça merveilleux que ce soit la voix d'un autre, les paroles d'un autre, qui les maintiennent en vie, quelque part, face à la mort qui les encercle.
Vous disiez tout à l'heure, Delphine Minoui, que ce documentaire s'est aussi proposé des images à l'encontre des images de propagande de Bachar al-Assad, qui essayait de présenter une jeunesse résistante comme une jeunesse absolument engagée dans le terrorisme, armée jusqu'aux dents et parfaitement extrémiste. Ce que dit Darwish, c'est qu'une partie de la résistance consiste à aller à l'inverse de l'image que l'on se fait de nous, en l'occurrence lui en parlant d'amour. Évidemment, en voyant des jeunes devisés, à savoir quel doit être le titre du journal qu'ils vont créer, ou peut-être imaginer une radio, vous faites circuler avec ce documentaire une image tout à fait presque déstabilisante. On a des jeunes hommes qui pourraient être, je sais pas, dans n'importe quelle banlieue ici en France, à s'imaginer futurs journalistes.
Mais ces jeunes, ils nous ressemblent beaucoup plus qu'on ne l'imagine. C'est des jeunes qui portent des casquettes sur la tête, qui ont des baskets Adidas, qui se nourrissent d'ouvrages de développement personnel à l'américaine, tout comme ils vont lire des poèmes de Mahmoud Darwish. C'est des jeunes qui prennent comme référence la bande originale du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, qu'ils écoutent aussi dans les caves. Et c'est ça aussi ce film, c'est donc leur redonner la parole et c'est laisser s'exprimer ce champ d'espoir, échapper des profondeurs de l'obscurité, des profondeurs de l'absurde, et ce champ d'espoir que j'ai envie que tout le monde écoute, que ce chant nous réconcilie avec la Syrie, qu'on ne voit pas la Syrie qu'à travers le prisme de Bachar al-Assad, à travers toutes ces images terribles qui nous font peur de Daesh. Ces jeunes, ils méritent tout simplement qu'on les écoute, qu'on les regarde et qu'on les juge pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on a voulu faire croire qu'ils étaient.
Une partie de votre film, on pourrait dire la seconde, Delphine Minouy, rejoint ces jeunes gens, quand ils se rejoignent d'une certaine manière, c'est à Istanbul, et d'un seul coup, il est question d'exil, il est question presque d'une bibliothèque qu'on a laissée au loin, un rêve inassouvi, un rêve qui a retrouvé presque la poussière de la guerre, et ils vivent, ils se marient, et là on entend un extrait de votre film justement où ils reçoivent des vidéos de copains restés en Syrie.
Je filme pour les copains restés en Syrie. Depuis Idlib, ils ont aussi enregistré des messages vidéo. Ahmad le premier.
Ton amitié compte beaucoup pour moi, Jihad. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. C'est vrai que les frontières se sont dressées entre nous, mais j'espère que cela ne durera pas. Tous mes vœux, mille félicitations. Je vous souhaite une vie heureuse. On avait une coutume sous le siège pour déclarer notre amour aux mariés. On le faisait sauter en l'air. Plus on le faisait sauter haut, plus on l'aimait. Donc, les copains, je vous demande d'envoyer Jihad en l'air, même s'il se cogne au plafond, c'est pas grave, ça veut dire qu'on l'adore.
Jihad.
Dis bravo à Jihad et Noura. Tu aimes Jihad? Tu aimes Bachar? Dis non.
Delphine Minouy, dans Daraya, vous rejoignez ces jeunes gens à Istanbul, dans l'exil et dans leur condition qui est leur condition contemporaine, c'est-à-dire se réinventer loin de la Syrie. C'est assez étonnant de voir la place que tiennent les téléphones portables, les écrans, Skype, WhatsApp, les vidéos qu'on s'envoie. Mais c'est aussi un peu glaçant parce qu'on se dit que ce cordon ombilical avec un pays laissé loin et laissé dans la violence et la haine, va donner quoi comme jeunesse, va donner quoi comme futur? C'est aussi étrange de les regarder vivre de cette manière-là.
Je pense qu'à ce jour, c'est encore très très difficile de répondre à cette question parce que c'est l'histoire en marche. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Moi, ce qui me fascine par contre et qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que malgré toute l'horreur endurée, ils croquent la vie à pleines dents. Ils sont passés de l'utopie collective à cette volonté de, dans l'exil, de se reconstruire. Personnellement, à titre individuel, donc il y en a un qui se marie, un autre qui subit opération sur opération pour
se réparer.
Pour se réparer. Personnellement, il y a toujours cette volonté également de reprendre leurs études. Parce qu'ils étaient tout jeunes au moment de la Révolution, ils avaient 19 ans. C'est une jeunesse sacrifiée, donc ils prennent des cours à distance, ils s'inscrivent à l'université, ils prennent des cours de turc, d'anglais. Et ce qui me frappe beaucoup avec eux, c'est vous évoquiez ce lien virtuel, il est toujours là. Ces jeunes, aujourd'hui, ils ont le corps en Turquie, mais le cœur en Syrie.
Ça veut dire qu'ils y retourneront pour faire des bibliothèques.
Ils y croient. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, mais ce sera peut-être dans 10 ans, ce sera peut-être dans 20 ans. Ce sera peut-être leurs enfants. Et ils sont dans un processus de volonté de transmission, ce que je trouve vraiment magnifique. Et aujourd'hui, Ahmad et Jihad vivent à Gaziantep, dans une ville frontalière, côté turc. Et ils travaillent pour des ONG qui continuent à aider à l'intérieur les populations civiles syriennes. Je pense à Ahmad qui travaille dans une ONG qui aide les femmes syriennes. Et ça, c'est formidable.
Et pour les aider, eux, on mettra sur le site de la Grande Table une cagnotte Litchi qui a été lancée pour continuer leurs différents projets. On peut voir Daraya ce dimanche 10 mars sur France 5. Merci beaucoup, Delphine.
Merci à vous.
Et merci à l'équipe de la Grande Table, Maya Neskovic, Antoine Suzarelli, Mathilde Tonfourcade, Oriane Delacroix, Laura Dutèche-Pérez et Henri Leblanc. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig et au son, Anthony Thomasson.